Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA 101.7, 107.5 FM et également sur internet www.rdwa.fr avec Jérôme dans les studios. Salut à toi.
Salut.
Jérôme Bouvier. Et on va parler du FestiWild, 3e édition de ce festival, toujours à l'ancien monastère de Sainte-Croix.
Ouais, ça ne bouge pas. Le lieu est trop important pour qu'on bouge, qu'on change de lieu. Ça fait vraiment l'identité de ce festival aussi.
Pourquoi ?
Ah, c'est tellement beau, village perché de la Drôme. Et le lieu qui est du 12e siècle est vraiment parfait pour faire un petit festival à taille humaine. Et voilà, on s'y sent bien, quoi.
C'est quoi le côté sauvage du monastère de Sainte-Croix ?
Alors, le côté sauvage, alors il y en a plein, figure-toi.
Bah,
c'est,
ouais.
Dans la cour, toute la saison, c'est une colonie de moineaux, une colonie d'hirondelles, de fenêtres énormes. Et puis, il y a des grands jardins autour. On a mis des pièges vidéo et il y a même des sangliers qui passent de temps en temps, etc. Donc, ouais, il y a plein de vie là-bas.
On peut faire un film autour.
Ah, on pourrait, je crois. Ouais. J'ai y pensé.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça.
C'est vrai qu'on fait rarement des films. Si, peut-être tu veux me démentir, mais des films sur une faune un peu plus classique, tu vois, mais qui serait quand même typique d'un coin.
Si, ça existe ici. Il y a presque une veine comme ça sur la vie sauvage de nos animaux domestiques, sur la petite faune dans les jardins, etc.
Sur le moineau, existe, ouais.
Sur le moineau, je ne connais pas, mais je pense que le moineau est un animal un peu oublié. C'est dommage, alors qu'il disparaît.
Bon, alors je précise à l'auditrice auditeur que si vous entendez des débroussailleuses, c'était pas pour faire un fond sonore anti-festival, c'est qu'on a un petit chantier d'espace vert juste à côté du studio, voilà, c'est mal tombé. Est-ce que tu peux nous faire un peu le bilan des deux premières années ou comment ça s'est passé
Alors l'an dernier, c'était une édition un peu particulière puisque c'était en plein Covid. Mais on a réussi à la faire. On a eu le pire week-end météo de tout le mois de septembre-octobre. Mais ça a été assez épique, mais on a quand même eu 1300 personnes, 1300 visiteurs. Et ce qui était génial, c'est que cette édition a pu se faire qu'avec la solidarité de tous les intervenants qui ont joué le jeu. Et donc, ils sont venus au départ gratuitement, mais on a quand même rentré suffisamment d'argent pour leur payer la moitié de leur cachet qu'on aurait dû leur payer si les conditions avaient été normales. Ça a été une réussite malgré tout. Mais on ne veut pas se servir de cette année comme année de référence parce que c'était trop particulier. Mmh. Donc, on est toujours sur la première édition, un peu comme référence en 2018. C'était une belle surprise que ça prenne comme ça, qu'on ait de tels retours qualitatifs autour de cette première édition. Et puis maintenant, je crois que l'évolution, c'est que FestiWild commence à être dans le paysage non seulement local, mais national des festivals.
Ce qui était l'ambition.
Et ce qui est l'ambition, bien sûr. Après, on a toujours cette problématique de comment contenir l'évolution et ne pas trop évoluer et qu'il y ait trop de monde parce que le site ne peut pas accueillir. Je pense que si on est à 2000-2500 personnes sur site, ce serait vraiment le maximum. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on aura le jour où ça arrivera et peut-être que ça va arriver cette année. Les conditions météo ont l'air top pour l'instant, on croise les doigts. Là, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on se rend compte que, oui, FestiWild, maintenant, beaucoup de gens en ont parlé partout en France, quoi. En ont entendu parler, pardon, partout en France. Ouais.
Et quand tu parlais de la solidarité des intervenants, on va rentrer dans le détail du festival, mais bon, il y a des films, donc c'est quoi ? C'est les réalisateurs qui prêtent, qui passent du temps, c'est les conférenciers qui viennent...
Parce que nous, on est beaucoup sur la présence des gens, une rencontre avec le public, sur des expériences de terrain de tous ces gens qui vont soit filmer, soit leur processus créatif dans le cadre de spectacles ou de concerts. Et toutes ces compagnies, déjà, ont accepté de venir gracieusement. Donc ils étaient défrayés, tout ça. Mais...
C'est-à-dire que par avance, vous leur aviez dit, bon là, ça va peut-être aller au crash
Nous, on s'était dit, je ne sais plus, au printemps ou à la fin de l'hiver, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on annule ou pas ? La seule solution pour que ça existe, c'est qu'on n'ait pas à se soucier du budget, parce qu'on n'allait trouver aucun sponsor, aucun financement, aucun mécène dans ce contexte. Et donc, on a proposé à tout le monde, on a dit, voilà, soit vous venez gratuitement, on vous défraie, et on fait quand même quelque chose. On était quand même dans une période où tout était bloqué, où il ne se passait plus rien. Donc, en fait, tout le monde était enthousiaste, à part certaines compagnies qui, vraiment, avaient un peu gros à jouer, parce que ça coûte cher, etc. Et ce qu'on comprenait tout à fait. Mais il y a eu très peu de compagnies qui ne sont pas venues, en fait.
Ouais, mais c'est intéressant de mesurer cette solidarité, justement.
C'est clair. Et donc, on a fait un peu une édition à minima, mais quand même suffisamment riche pour que ce soit FestiWild, puisque ça, c'est quand même l'identité de ce festival avec plein de propositions. Il y a une chose qu'on n'a pas pu faire en 2020, c'était toute la partie scolaire qu'on prévoit chaque année pour les scolaires. Donc, on avait tout un programme sur 3 jours avant le festival. Et faire venir 150-200 enfants sur site, etc. Donc ça, on a abandonné, c'était trop compliqué. Et ce qu'on reprend cette année, voilà. Mais ouais, c'était très chouette, ouais.
Alors, la troisième édition du Festival, ce sera les 23, 24, 25 septembre 2022. Mais puisque tu as commencé par ça, il y a toute cette action scolaire qui se passe avant.
Alors, on a travaillé avec 5 écoles et 5-6 classes, parce qu'il y a des classes qui sont en commun, de la vallée de la Drôme. Ce sont des écoles soit qui font de la renaturation de cours d'école, soit qui font l'école du dehors. Et on leur a proposé de mettre en valeur leurs travaux de l'année, de leur sortie, etc., en créant une exposition qui sera présentée à FestiWild cette année. Et donc, eux nous ont produit tout ce qu'il fallait pour l'exposition. Et on a mis à disposition des professionnels. Il y a l'équipe de Lysandra qui les a accompagnés. Donc, une association d'éducation à la nature, populaire à la nature, qui est un peu coordonnée. Et puis, on a missionné également Bernard Faure, qui est un ingénieur du son.
Célèbre du coin.
Ouais, célèbre du coin, exactement, très très talentueux, qui a accompagné les classes, qui a formé les instituteurs. On a acheté du matériel pour qu'ils puissent faire des enregistrements, et ils nous créent une bande sonore pour l'exposition avec les retours des enfants, des enregistrements qu'ils ont fait en pleine nature, etc. Les impressions des enseignants, voilà, qui va habiller cette exposition. Voilà, qu'on va présenter là.
Tu les as les écoles en tête ?
Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, les écoles, il y a Chabestan, déjà, l'école, la classe de Didier Ribes en CM1, CM2. Il y a la classe de. Non, il y a deux classes de Beaufort-sur-Gervanne avec les deux instituteurs. Ils sont à RPI avec la classe de Suze, donc Séverine Jean qui vient également. Et il y a deux classes sur Cray. Une classe à Chandeneux de maternelle et une classe dans l'école de Royanais.
Voilà, donc en plus, voilà. Vraiment un panel d'âge très différent.
Un panel d'âge qui reste dans l'élémentaire, entre maternelle et CM1, CM2, donc des enfants qui peuvent être en 6e pour certains cette année. Et puis, surtout, déjà géographiquement, des classes qui sont un peu plus en ville et d'autres classes qui sont déjà un peu dans la nature.
Quoi. Et ce choix, c'est vous qui l'avez fait ?
C'est-à-dire que c'est le projet qu'on voulait faire en 2020, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça et qu'on est en contact avec ces classes. Et à l'époque, on n'était que sur la renaturation de cours d'école. Et il n'y avait pas tant de classes que ça qui faisaient ça. Et depuis, ça a explosé. Il y a plein de classes avec les canicules, etc., qui veulent débétonner les cours, etc. Et depuis, il y a ce mouvement de l'école du dehors, notamment qui est apparu beaucoup avec le Covid. Et donc, on a élargi un petit peu la thématique. On a pris les classes qui faisaient ça dans le coin, quoi, et qui voulaient participer, bien sûr.
Alors, peut-être qu'on peut juste vite décrire ce que ça veut dire. Tu as commencé, hein, ouais. La renaturation des cours d'école et l'école du dehors.
Oui, alors renaturation, ça va de prévoir un petit coin de jardin quand c'est possible, un petit coin nature dans la cour, enfin, en tout cas, de l'utiliser et de s'en servir comme outil pédagogique en allant à la rencontre de tout ce qui vit dans cet espace, jusqu'à faire casser des parties de béton dans les cours pour refaire un coin de nature et observer comment revient la vie, les espèces qui vont recoloniser ces espaces, etc. Et l'école du dehors...
Et poser des arbres aussi, peut-être enfin,
y a oui, ils ont planté des arbres. Ah, il y a un truc très facile avec les écoles, c'est l'observation des gendarmes qui sont là. Et du coup, ça donne des choses assez rigolotes. Et puis, ben, pour certaines, notamment dans l'école de Royanné, l'institutrice Isabelle Stagnol, ça fait en fait 3 ans qu'elle est là-dessus. Et donc, elle a un peu le recul avec une partie de la cour qui a été débétonnée, où ils ont refait un coin nature. Ils sont partis du constat qu'ils ne voyaient absolument rien dans leur cour, au départ, à part quelques pigeons, tourterelles. Et puis, ils se sont mis à investir ces jardins et casser la cour. Et maintenant, ben, ils constatent qu'il y a plein d'espèces qui arrivent. Ils ont mis des nichoirs, etc. Et il se passe plein de choses. Et pour les gamins, ce sont des outils extraordinaires. Et nous, on se régale à monter cette exposition parce que quand on voit les photos qu'ils nous envoient de leur sortie, etc., on se dit, mais c'est ça l'école. C'est ça, c'est ce contact avec l'extérieur, avec la vie, avec les autres formes de vivant. Et c'est génial. On trouve ça vraiment super.
Et donc l'école du dehors, c'est ça aussi.
Et donc l'école du dehors, ce sont des instituteurs qui, par exemple, Didier Ribes à Chabestan, tous les jeudis, toute l'année, il est allé avec sa classe sur un endroit précis au bord de la Drôme, dans la Ripisylve. Il travaillait toute la journée là-bas, quel que soit le temps. Et ils ont fait des maths là-bas, ils ont fait de la géométrie, ils ont fait... Voilà.
Mais appliqué au lieu.
Appliqué au lieu, alors... Pour certains, il y avait des productions écrites aussi sur cahier, etc. Mais c'était en lien avec le lieu. Et dans son protocole de la journée, il y avait forcément un petit moment au début où chaque élève devait s'isoler, se trouver un coin. Chaque élève devait être à au moins 5 mètres les uns des autres pour se connecter à ce lieu et écrire ce qui leur passait par la tête. Et pendant ce moment-là, etc., et écrire à la forêt, ou, etc., à destination de leurs parents ou de quelqu'un d'autre, mais parler de ce qui se passait autour d'eux. Et ça faisait des moments déjà très posés et d'observation, au bout de, parce qu'ils restaient bien 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, tout seuls dans leur coin avec leur feuille de papier et leur stylo.
Et toi qui es spécialiste de la planque longue pour guetter un animal, ouais. Est-ce qu'un quart d'heure, ça suffit pour que tout d'un coup, si on est silencieux, quand même, on voit se remettre en activité la faune autour de nous?
Ah bah là, c'est un peu juste pour ça, d'autant que ce sont des groupes quand même d'une vingtaine d'enfants, etc. Donc
trop de bruit.
Les classes, ça fait quand même beaucoup de bruit. Mais pour ce qui est tous les insectes, etc., qu'on va déranger en arrivant, qui vont se planquer, eh ben, au bout de 5 minutes, ils vont ressortir. Il y a les oiseaux aussi qui vont se remettre à chanter, etc. Donc, il y a toute une connexion avec tous ces êtres vivants qui habitent ce lieu qui va se faire naturellement. Et puis, même se mettre à regarder ce qu'il y a autour de soi, les plantes, et voir qu'il y a plusieurs espèces qui sont là, etc. C'est le sol, comment il est fait. C'est tout ça, c'est de la reconnexion qui est super importante pour des enfants qui ne sont pas forcément... voilà, avec cette énergie-là, où ils sont toujours à faire des choses, la plupart. Et donc, voilà, ça donne des choses très intéressantes. Ouais. Et à Suze, c'est pareil, ils ont fait l'école du dehors. À Beaufort aussi, où ils avaient la Gervanne aussi, où ils allaient faire des sorties régulièrement. Et tous nous disent que ça crée vraiment déjà un autre rapport à l'élève, et l'élève un autre rapport à l'instituteur. Et puis, c'est un formidable outil et c'est vraiment enthousiasmant pour les enfants qui adorent ces moments-là. Qui pleuvent, qui nantent, qui ventent, qui neigent. Ils adorent ça. Ils louperaient une sortie à aucun moment, quoi.
Alors, festival, c'est tous les 2 ans.
Ouais.
Donc, du coup, bah, là, c'était le projet pour ces 2 ans-là.
Ouais.
Vous partez sur quoi? Vous changez d'école et quelle peut être la suite des
projets? Pour 2024.
Ouais.
2024. Si, on commence à y penser. On aimerait bien travailler avec des écoles sur un autre niveau, plus sur les collèges et lycées, peut-être. Pour l'instant, ça reste des idées, hein, évidemment, mais on aimerait bien mettre en place un programme sur une année avec ces écoles pour créer des films d'animation en lien avec la nature sauvage. Donc, on a une année pour mettre ça en place avec des lycées, des collèges, certaines classes, et peaufiner ça. Et on a déjà un peu quelques contacts avec Valence, évidemment, qui est un haut lieu du film d'animation. Et donc, Donc voilà, ça nous plairait bien. Et on aimerait aussi engager un travail de long terme avec la classe de Sainte-Croix pour qu'ils fassent du land art ou des hôtels à insectes un peu délire. Ce sera à Calais avec l'instituteur. Mais qu'ils fassent ça sur l'année et que ce soit présenté pendant le festival 2024. Quoi.
Bon, bah, si les collèges, lycées nous entendent, ils peuvent rentrer en contact là.
Voilà, c'est ça.
Festival 3e édition. Alors le thème « Réconcilier l'homme et la nature ». On rappelle 23, 24, 25 septembre 2022.
Voilà, alors c'est un mélange de conférences, d'expositions, de spectacles, de sorties, d'expériences immersives. On part sur un programme très riche où les gens ils vont devoir choisir les choses à faire. Ils ne pourront pas tout faire, ça c'est clair. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, en fait. Donc, il y a des événements qui sont un peu particuliers avec des petites jauges qu'on va essayer de répéter, donc qui auront lieu et le samedi et le dimanche. Je pense à la Marche du Temps Profond, par exemple, qui est une balade, une conférence marché sur 5 km, où le principe, c'est quand on parcourt un mètre, on parcourt 100 000 ans de l'histoire de la Terre. Et donc, le conférencier s'arrête à des moments en fonction de ce laps de temps qu'on vit physiquement et va nous parler de toutes les grandes étapes de la formation de la Terre au niveau géologique et la vie qui apparaît et l'évolution que ça a pris, quoi. Et sur un super parcours au-dessus de Sainte-Croix, donc ça va être chouette. Ça dure 4 heures, ça, et donc on le répète le samedi et le dimanche. Et donc pendant ce temps, sur site, il y a plein d'autres choses. Avec des soirées qui sont un peu plus marquées, qui sont un peu plus ciblées, on va dire, sur la cour du monastère, qui est un lieu extraordinaire, où on fait des spectacles, où on fait des projections. Et donc là, on restreint un peu ce qui se passe à côté pour se concentrer sur cet espace, avec des événements un peu plus prestigieux ou un peu plus marquants, quoi. Des compagnies qui sont un peu exceptionnelles, etc. Voilà.
Ces compagnies, d'ailleurs, ces spectacles, vous les choisissez parce qu'ils ont un lien quand même avec soit le côté sauvage ou la nature, j'allais dire, pour faire facile, ou ça peut être des propositions qui ont
rien à voir. Nous, la spécificité de ce festival, c'est que tout ce qui est proposé a un lien avec la nature sauvage. Absolument tout, que ce soit une sieste musicale, que ce soit un concert, que ce soit une expo, une conférence, tout a un lien avec nos thématiques. C'est vraiment ce qui fait l'identité de ce festival et qui se démarque de tous les autres festivals, c'est qu'on tient à ça, à cette, on peut dire, ce cahier des charges, cette idée-là, quoi. On a créé ce festival dans cette optique et on s'y tient vraiment parce que c'est ce qui fait sa force.
Et alors, en film, peut-être en conférence, ça paraît facile, mais en compagnie artistique, c'est facile à trouver aussi.
C'est aussi pour ça qu'on le fait tous les deux ans. C'est aussi pour se préserver, parce qu'on n'est que des bénévoles pour le moment. Mais c'est aussi pour qu'il y ait de la création et des propositions. Et donc là, on l'a créé pour la première fois en 2018. On est en 2022. Et on s'aperçoit déjà que dans ce laps de temps, avec tout ce qui est arrivé...
Ah ouais.
On a une proposition de plus en plus foisonnante autour de cette thématique. Et évidemment, il y a...
Tu veux dire l'écologie, ça y est, là, ça commence à...
Alors, l'écologie,
avec ces
c'était climatiques. Déjà là. Ouais. Mais la thématique spécifique de notre lien aux autres formes du vivant, là, ça apparaît beaucoup plus et de plus en plus souvent. Et dans des choses qui sont assez inattendues, donc... Là, pour 2024, on a des possibilités de spectacles. On remplit déjà presque le festival pour 2024, avec de la danse, avec des concerts, avec, etc. Il y a plein de propositions autour de cette thématique. Ce sont aussi tous les bouquins qui sont sortis de Baptiste Morisot, qui a un peu explosé, qui est un philosophe qui parle beaucoup de notre lien à une nature sauvage. Voilà, il y a de plus en plus de livres et de choses qui... Voilà, c'est une thématique qui, dans le milieu de l'écologie, à un moment, on parlait que du dérèglement climatique. Et on se dit, il n'y a que ça. Mais non, en fait, il y a plein d'autres problématiques, et notamment la disparition de la biodiversité. Et ça y est, maintenant, ça commence à se traduire par des propositions artistiques, cette prise de conscience.
Vous qui réalisiez des films, à une certaine époque, en tout cas, au cinéma, c'était la première fois qu'ils arrivaient, ces films-là. Et ça faisait un peu pionnier, j'allais dire, de nous montrer la nature sauvage, l'intérêt qu'a le plancton dans le réchauffement climatique, par exemple, et que donc cette biodiversité a du sens. Et est-ce que le public est en demande aussi, selon toi, de ça?
On va voir ouais, pendant cette édition, mais je crois, oui.
Ou toi,
sur les
films, est-ce que tu vois qu'il y a une demande, il y a une attente?
Alors, il y a de plus en plus de films autour de cette thématique, mais c'est vrai que le dérèglement climatique, il prend
encore trop de place.
Il prend énormément de place encore, et trop, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas assez équilibré parce que les problématiques de perte de biodiversité ou d'artificialisation des sols, etc., où tout est lié, évidemment, mais ce sont des thématiques importantes et tout est lié. Donc, réduire les problèmes d'écologie à juste du carbone dans l'atmosphère, non, ça ne marche pas. Festival s'inscrit complètement là-dedans et d'un point de vue du public, c'est vrai que dans ce milieu, on touche beaucoup des gens qui sont convaincus et la grande question qu'on se pose toujours, c'est comment faire venir des gens qui ne sont pas forcément intéressés par cette problématique au départ. Je pense que les gens, ils sont de plus en plus sensibles, mais il reste quand même une grosse partie de la population. J'entendais l'autre jour qu'il y a encore 43% des Français qui ne croient pas au réchauffement climatique, quoi. Donc, voilà. Donc, comment faire venir des gens comme ça qui...
En allant dans les écoles, déjà.
Eh bien, c'est en allant dans les écoles, nous, on se dit. Et en proposant culturellement des événements artistiques qui dépassent la problématique et qui sont en soi des choses très belles ou très intéressantes. Et la problématique va venir en arrière-plan et du coup mettre sa petite graine chez ses spectateurs qui seront intéressés pour voir, par exemple, on va recevoir les chanteurs d'oiseaux avec un spectacle qui s'appelle Migration. Et les chanteurs d'oiseaux, ce sont deux personnes qui imitent les oiseaux en sifflant. Ils sont extraordinaires. Et là, ils viennent avec deux musiciens, deux jazzmen qui sont des pointures, Vincent Perani et François Salk. Et dans le milieu du jazz, ces deux musiciens, en fait, drainent énormément de monde. Et des gens, sans doute, qui sont plus intéressés par le jazz que par la thématique des oiseaux ou tout ça. Donc, voilà, on va faire rencontrer un peu ces deux mondes, sans doute, on espère. Et ça peut provoquer quelque chose de très, très sympa, parce qu'en plus... On va baigner dans cette idée de respect du monde vivant, des problématiques qu'il peut y avoir, d'émerveillement sur des expériences de tel ou tel intervenant, etc. C'est par ce biais-là qu'on peut peut-être amener des gens à se dire « Ah oui, bon, c'est chouette et c'est bien d'y réfléchir aussi. »
Ça donne quand même envie de poser la question, Jérôme, quel sens ça quand même, pour des convaincus de venir sur un événement comme celui-là?
Parce qu'il se passe, il y a toujours des initiatives, des belles initiatives en tout cas pour essayer d'améliorer les choses, et puis des réflexions philosophiques, etc. Donc les intervenants sont quand même des gens qui des pointures dans leur domaine, etc. Donc et nos connaissances sur la nature évoluent toujours. Donc puis les propositions artistiques, c'est toujours différent, quoi. Donc, c'est toujours un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Et donc, en ça, c'est intéressant même pour des convaincus. Et puis, il y a le lieu, il y a passé un bon moment et retrouver des gens aussi dans ce lieu qui est extraordinaire. Donc, ça permet aussi d'aller plus loin dans notre propre réflexion personnelle en confrontant les idées des autres. On a plusieurs tables rondes, donc des points de vue différents. On a trois personnes en table ronde qui vont parler. Ils ont fait des expériences personnelles de se réensauvager, on va dire, et d'aller se mettre dans des conditions un peu plus en lien avec le monde sauvage, etc., en se déconnectant, tout ça. Donc, ils vont parler de leurs expériences et puis de voir comment ils sont ressortis de là, si c'est simple ou pas. Ça peut donner des idées. à ceux qui vont écouter et de franchir le pas ou d'envisager ça autrement. On a une table ronde autour du droit de la nature, donc donner des droits à des éléments naturels. Donc là, c'est quelque chose de complètement nouveau et qui prend de plus en plus de place, notamment avec la notion d'écocide, avec on parle de donner une personnalité juridique à des fleuves, à des arbres, à des groupes d'animaux comme les grands singes, etc. Donc on est quand même dans, sociologiquement et philosophiquement, dans l'air du temps et dans ce qui peut se passer. Voilà, donc c'est super intéressant. Il y a toujours besoin de se confronter à d'autres points de vue pour préciser les choses, pour que ce soit plus clair pour soi. On ne peut pas être spécialiste de tout et les problématiques sont tellement vastes que voilà, écouter les autres, ça donne du poids aussi. Et des fois, on peut être entre deux dans notre vie personnelle et sur comment faire, etc. ou quoi répondre quand on nous dit... qu'il n'y a pas de dérèglement climatique ou que ce n'est pas l'homme qui fait ça, etc. Voilà, ça peut donner aussi des éléments de réponse et effectivement renforcer tout un argumentaire autour de cette thématique. Donc, je pense que ça apporte toujours quelque chose, ça nourrit toujours, même les convaincus, tout à fait. Et surtout, le fait de se dire, on n'est pas seul. On n'est pas seul à penser ça, on n'est pas seul à avoir des questions, à avoir des angoisses par rapport à l'avenir. Et voilà, quoi. Et de se sentir en groupe dans un bon moment festif et où on peut s'émerveiller aussi. On va pas, c'est pas un week-end qui plombe, quoi, vraiment pas. Et ben voilà, ça fait du bien. Et ça, rien que ça, ça a du sens. Voilà.
On pourrait citer aussi quelques grands noms, des gens un peu bien connus. J'ai envie de le faire à ta place puisque tu le fais pas, mais il y a quand même Francis Allais, Marie Amiguet. Pour ceux que je connais d'entrée de jeu, comment vous les faites venir ces gens-là et qu'est-ce qu'ils proposent ?
Alors, comment on les fait venir ? La plupart de nous, enfin en tout cas dans l'organisation, on est plusieurs à être en contact régulier avec ces gens-là parce que pour ma part, ouais. Francis Allais, j'ai bossé avec lui, donc on se connaît depuis un bon moment. Je fais partie de l'association Francis Allais pour la forêt primaire aussi, etc. Et puis, avec nous, dans la programmation, il y a Laure Nouala, qui est une ancienne journaliste du journal Terre de Libération, qui est réalisatrice, écrivaine, etc. Donc, qui a beaucoup côtoyé beaucoup de ces personnes-là. Et puis voilà, même quand on ne les connaît pas, on prend contact avec eux, on leur explique le festival. Et beaucoup en ont entendu parler. Et puis, ça se déclenche, quoi.
Voilà. Il est unique, ce festival, en France. Il n'y a pas d'autre modèle pareil.
L'an dernier, il y a la première édition, je ne sais plus le nom, c'était dans une vallée à côté de Briançon, qui a été organisée par Terre Sauvage et qui mêlait aussi autour de cette thématique de nature sauvage. Qui est apparu donc l'an dernier. Apparemment, ils ne le font pas cette année, enfin pas sous la même forme. Donc, je ne sais pas si ce festival-là va perdurer ou quelle forme il va prendre au final, parce que c'est quand même un boulot énorme d'organiser ça. Donc, apparemment, c'était très sympa aussi. Donc, on retrouvait certains des intervenants d'ici, mais pas que. À ma connaissance, il n'y a que celui-ci, il n'y a eu que cette initiative, comme ça. Après, ce sont plus des festivals tournés avec des thématiques comme la rivière, comme celui Les yeux dans l'eau, à Cray, qui est super bien, ou plus général sur l'écologie. Il y a quand même un événement qui a lieu durant l'été qui s'appelle Agir pour le vivant, à Arles. On est beaucoup plus sur des tables rondes, projections. Je ne pense pas qu'il y ait des spectacles. Le panel est moins varié. Mais ça va peut-être faire des petits, tout ça. Hein. En tout cas,
il faut...
Nous, on se rend compte par les gens qui viennent au festival. On en a eu plusieurs, par exemple, qui ont été des visiteurs la première année, en 2020, et qui maintenant nous proposent des choses. Et ils ont créé des choses dans ce laps de temps. Et des rencontres avec Francis Allais, par exemple, à certaines conférences, les ont inspirés, quoi. Et donc, voilà, il y a une vraie dynamique qui se crée. Et voilà, c'est bien de... Pour nous, ça fait plaisir de sentir ça, parce que c'est toujours compliqué de se dire, mais quel impact on a, en fait ? Est-ce qu'on n'est pas juste à faire un peu plus de CO2 dans l'atmosphère avec les gens qui viennent, etc. Et en fait, on se rend compte que la portée de ce festival, elle est plus large que ce qu'on pense. Et voilà, il y a vraiment des choses qui se passent en sous-marin et qui sont intéressantes, toi.
Et les films, qu'est-ce que vous avez cette année ?
Alors, en film, on aura une grande soirée autour du choix de notre marraine. Donc ça, c'est le vendredi soir, Marie Amiguet, donc, qui est la réalisatrice de La Panthère des Neiges, et qui a choisi le film, son film coup de cœur, c'est Naïs au Pays des Loups, de Rémi Masseglia. Et c'est un père qui emmène sa petite fille de 2 ans pour voir des loups dans le parc du Mercantour. Sa fille avait envie de voir des loups. Elle lui a dit, je t'emmène, on va essayer de trouver et voir des loups. Et pendant 2 ans, il arpente la montagne avec sa fille dans le dos pour aller voir les traces, etc. Ils finissent par, je crois, voir des loups. Et c'est très, très chouette.
Le film commence, elle a 2 ans, elle est finie, elle a 4 ans. Quoi.
Je crois qu'il a fait ça sur 2 saisons, il me semble. Ouais. Bien. Très, très chouette. Donc, il y aura non seulement Marie Amiguet, mais il y aura le réalisateur avec la petite fille, avec Naïs, qui sera là aussi. Derrière, on enchaîne le vendredi soir avec « Quand baleines et tortues nous montent le chemin », un documentaire de Rémi Thésier, qui est un réalisateur qui vit à La Réunion et qui a observé le retour des baleines à bosse et des tortues là-bas. Et il nous en parle. Et quel impact ça a sur l'île, sur les gens, sur l'imaginaire des gens, etc. Donc, très, très belles images. Alors, ces séances un peu tardives, on ne fait pas venir les réalisateurs parce que c'est trop délicat de garder de l'énergie pour 1h du matin ou minuit. Mais en tout cas, le film sera là. On a une grande soirée, on va dire africaine, le lendemain, le samedi soir, avec le film de Pierre Steen qui s'appelle Kalahari, l'autre loi de la jungle, qui est un film sur la coopération animale. J'ai eu l'honneur de faire partie de l'équipe de ce film et d'être un des chefs opérateurs. Et donc, un film qui a été tourné en Namibie, dans des décors absolument incroyables.
Ça fait rêver,
ce endroit. Et là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de coopération animale ou végétaux-animaux. Et donc, voilà.
Un bébé new abandonné que finalement, les lions élèvent un moment. On ne sait pas s'ils finissent par le bouffer, mais...
oui, ça, c'est un peu...
C'était trop...
On va dire des anomalies. des anomalies de la nature, mais qui sont très, très belles. Là, c'est plus parler de choses qui se sont mises en place au cours de l'évolution. Et sur des millions d'années de vie, parce que la Namibie, toute cette partie de l'Afrique, ce sont les plus vieilles terres, en fait, de notre planète émergée. Donc là, la vie a évolué, coévolué, pour créer des relations qui sont beaucoup plus complexes qu'ailleurs. Et donc c'est ça que ce film raconte avec grand spectacle. Et derrière, on a un film Okavango qui se passe un peu dans la même région au Botswana. Donc le fleuve Okavango qui est un fleuve qui ne se jette pas dans la mer et qui, les eaux viennent inonder toute une partie de marécages gigantesques. Donc ça se voit par satellite et qui passe du désert à une espèce de marais avec 2, 3, 4 mètres d'eau, etc. Où il y a donc toute une faune, toute la grande faune africaine qui vit là-dedans. Et donc là, ce sera l'Afrique, mais avec plein d'eau. Et très, très beau film aussi. Et puis, on a des films conférences, des films qui servent de support à une conférence, comme La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, grande enquêtrice sur plein de thématiques. Et donc là, voilà, un film vraiment, on peut dire, très, très important, quoi.
Complètement dans l'actu.
Complètement dans l'actu, voilà, et qui dit, qui fait ce lien entre la perte des écosystèmes et la simplification des écosystèmes en éliminant les espèces, etc., et le lien avec l'apparition de pandémies de plus en plus fréquentes, quoi. Voilà, avec Marie-Monique qui sera là et qui va nous parler après le film. Alors, le dimanche, on a Piscicotane, Croire en chacun de ses pas. C'est un film canadien qui raconte un groupe de jeunes canadiens, de autochtones canadiens, donc qui veulent reconnecter avec leur culture. Et donc, il y a tout un groupe d'animateurs qui font le relais pour cette reconnexion. Donc, ça passe par une reconnexion physique avec la nature et ça passe aussi par une reconnexion avec la langue, etc. Et toute l'équipe du film se déplace du Canada à Festiwild. Donc, ils sont 8 ou 9 avec les animateurs, tous les enfants et les réalisateurs, réalisatrices. Donc, merci à eux déjà. Donc, c'est trop bien. Et voilà. Côté projection, c'est ça. Alors, dans cette grande programmation, il y a aussi un élément fort et qui va avoir lieu le dimanche à 16h. C'est un concert de la compagnie La Forge avec Bernard Faure, justement. C'est audio-naturaliste de la région et qui s'appelle « Et autres chants d'oiseaux ». Et le principe, c'est Bernard nous parle d'un oiseau et de son chant avec... un peu des histoires sur son nom, sur des histoires très intéressantes et souvent rigolotes. Et il y a 4 musiciens autour, des jazzmen, qui improvisent sur cette idée et sur la structure du chant qui est proposée. Alors, ce n'est pas une tentative d'imitation des chants, pas du tout, mais c'est vraiment de l'inspiration sur ces chants et c'est très, très chouette. Voilà, avec des musiciens très talentueux. Ça va être un beau, beau moment.
Ce programme, il est dispo un peu partout dans le secteur puisqu'il a été diffusé, mais aussi on le suit sur le site internet de Festiwild.
Oui. Vous aurez toute la programmation sur le site, ainsi que la billetterie, le côté pratique également.
Bah, tu nous dis les tarifs un peu ?
Donc on fonctionne sur la billetterie avec des passes et un pass qui donne un droit d'entrée sur site où là, il y a accès en libre à toutes les conférences, à toutes les expositions, à certaines animations, etc., qui fait pour la journée 20€. Et on a un pass pour les soirées qui sont, on va dire, avec des spectacles un peu plus ambitieux, etc., qui est un peu plus cher, où on est sur 30€ le pass journée spectacle, plus film, plus donc accès à tout, en fait. Il faut réserver. Absolument, parce qu'on n'a pas des jauges gigantesques. Il y a certains événements, comme la Marche du Temps Profond, où c'est vraiment des toutes petites jauges. Donc là, si vous voulez participer à cet événement, on va dire, donc soit le samedi, soit le dimanche, il faut nous écrire à organisation@festival.org et on vous inclut dans la réservation. Toutes les animations, les réservations se feront sur place. Et il y a un spectacle particulier qui est un spectacle déambulé qui s'appelle « Zone à étendre » par la compagnie « Demain est annulé ». Où là, il y a 8 ou 9 comédiens, etc. Sur 2 heures, où là, il y a une tarification spéciale. Il y a un petit billet en plus à donner qui est de 7€ pour ce spectacle-là. Voilà. Et qui aura lieu, lui aussi, le samedi et le dimanche. Donc, 2 fois. Vous aurez deux chances de le voir, je crois, à 14h le samedi et 15h30 le dimanche. Mais allez vérifier sur le site, parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas tout en tête précisément.
Évidemment, on mange bien et on boit des trucs bons.
Évidemment. Toute la place du village, en fait, sera le lieu restauration, buvette, etc. Donc, c'est l'équipe du monastère qui va préparer les repas, qui seront 1 ou 2 plats, en pensant aussi aux végétariens et des buvettes sur la place. Voilà, je peux faire un appel. On cherche un glacier artisanal. Qui fasse du bio, évidemment, et voilà. Donc, on va bien manger, voilà, avec un bel espace pour discuter, se retrouver, etc. Et il y aura aussi tout un espace village associatif, animation, avec notamment la roulotte LPO, qui propose plein d'animations pour les enfants, pour les petits et les plus grands aussi. Et on clôturera le festival par un spectacle proposé par la roulotte Sameiris, de la compagnie Apatride.
Festival numéro 3, 23, 24, 25 septembre. Voilà. Est-ce qu'il nous manque quelque chose,
oui,
Jérôme ?
Oui, il manque quelque chose d'important. Parce que, en fait, ça, ce sont les dates de l'événement. donc 23, 24, 25, où il va se passer beaucoup de choses. Mais on a un événement Festiwild au Pestel, avec la projection du film La Nature, d'Artavach Pelechian, qui est un Arménien soviétique, qui est un peu un expérimentateur du cinéma, et qui commence à être âgé maintenant, mais qui fait des films qui sont vraiment dans de l'expérimentation. Et donc là, c'est sur tous les grands événements un peu destructeurs de la nature, les grosses éruptions volcaniques, voilà, quand la nature se réveille, quand les événements climatiques ou les événements telluriques montent toute leur puissance. Donc un film en noir et blanc qui est une vraie expérience cinématographique.
C'était ce mardi 13.
C'était ce mardi 13 à 20h30 au Pestel. Mais c'est important de dire que tous les ans, à chaque édition, on fait un peu des soirées en amont du festival avec le Pestel, voilà, qui nous suit depuis tout le temps. Donc, et puis cette année, le mercredi 21 septembre, il y aura deux événements qui sont en collaboration avec le Théâtre Les Airs, une collaboration qu'on développe aussi de plus en plus. Et donc, il y a un spectacle pour les tout-petits à 17h qui s'appelle « Emporté par le vent » qui sera au théâtre même. Et puis, la compagnie Mycelium qui revient, qui avait fait une sortie de résidence en 2020 à Festiwild et qui revient avec la Symphonie des Chauves-Souris, mais cette fois avec le spectacle bien, bien en place. Et ça aura lieu sur la place de l'Évêché à 20h30, mercredi 21 septembre. Voilà. Et c'est ouvert, c'est au chapeau. Et c'est à ne pas louper. C'est vraiment super bien, ce spectacle.
Est-ce qu'il faut terminer en citant des gens qui sont importants pour vous ? Je ne sais pas, des partenaires
Oui, et ben, évidemment, pour faire cet événement, ben, on a plein d'aides, plein de partenaires. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais ça va des partenaires locaux, comme Lyotard, qui nous fournit toutes les grilles d'exposition, grilles de chantier qu'on habille, qui nous servent de grilles d'exposition, à Nateva, avec l'Eden, à Cray, avec Drôme Aventure ici, Intermarché, etc. Et puis d'autres au niveau un peu plus régional, comme France Bleu, qui vont venir faire un direct le vendredi d'ailleurs. Puis après, au niveau national, on a Ushuaïa TV, la Fondation Yves Rocher, Nature et Découverte, Actes Sud, bien sûr, où beaucoup d'auteurs viennent par leur intermédiaire. Il y a la librairie aussi, Mosaïque, ici, qui va être présente sur place, avec un choix conséquent sur notre thématique. Donc oui, on a plein de partenaires, et sans lesquels on pourrait pas faire ça, quoi. Parce qu'on a très très peu de fonds publics, en fait. Merci à eux. Et voilà, ça va nous permettre de faire cette édition qui va être, je pense, très très bien, et j'espère qu'il nous servira de référence maintenant.
Bon, venez à 2500 au Festiwild. On le redit encore une fois, 23, 24, 25 septembre 2022. Faut réserver. Toutes les infos sur internet, festiwild.com.
Tout à fait.
Jérôme, merci.
Eh bien, merci Baptiste.
À la prochaine.
Et ouais, j'espère te voir sur place aussi.
On va passer.
Super. Allez, au revoir à tous.